Vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne. Vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin.
Épisode numéro 33, Dieu est-il barbu ? Chers amis, bonjour. Alors vous l'avez bien connu et peut-être êtes-vous toujours en contact avec lui. Vous connaissez son nom, même s'il change souvent, c'est Dieu. Bon, beaucoup de gens ont Dieu pour patronyme. Dieu tout court, Dieu le veut, Dieu donné, donner ses données, reprendre ses volets, Dieu me garde, Dieu sait tout, Dieu le saint, Dieu Solage, et puis Dubourdieu, l'Armand Dieu, Espérant Dieu, Jean de Dieu. Je pense qu'au bout d'un moment, on s'habitue à porter un tel nom. Et forcément, on s'habitue aussi à toutes les petites vannes vaseuses que l'on fait lorsque on vous rencontre et que vous vous présentez. Bonjour, moi c'est Ambroise. Ah, alors, paré Ambroise. Et on répond avec un sourire. Ah, on ne me l'a jamais faite celle-là. Alors, Dieu, vous imaginez ? Alors, comment vont les saints ? Alors, surtout si c'est une fille. Ou bien, vous êtes certainement aux anges, monsieur Dieu le veut. Mais la question, surtout si vous pensez le connaître, et si vous l'avez bien connu, c'est Dieu est-il barbu ? Alors, je vais vous raconter une histoire que j'imagine avoir été inventée par Michelle Obama quand elle fut la première dame des USA et qu'on lui demandait ce qu'elle faisait à la Maison Blanche. « Eh bien, disait-elle, je m'intéresse beaucoup aux astronautes de la NASA, l'étoffe dont on fait les héros. Et un jour, quand Willie Nelson était en mission autour de la Terre, a really crazy guy, sa capsule s'est mise à tourner trop vite et à sortir de son orbite. Et tout d'un coup, « Allô, Hudson, est-ce que vous m'entendez ? Hudson, je crois que nous avons un problème. » Allô, le module, vous m'entendez ? Allô, la Terre ! Ah, je m'éloigne de la Terre ! Mes commandes ne répondent plus ! Allô, Hudson ! Et la capsule et l'astronaute partent à toute vitesse dans l'autre sens. La liaison radio est de plus en plus mauvaise. L'astronaute comprend que c'est foutu, à moins d'un miracle. Allô, la Terre ! Vous direz à ma femme et à mes enfants que je les aime. Allô ? Et la capsule file dans le vide et le noir du cosmos. Et soudain, après des heures d'avoir voyagé dans l'univers, une voix très claire. Allô, la Terre ? J'arrive dans une lumière blanche. Allô, la Terre ? Allô, la Terre ? Tout est blanc. Tout est lumineux. Allô ? Le moteur ralentit. Ah, mais je crois que je peux reprendre les commandes. Ah, ça marche. Oh ! Oh ! Je vois Dieu ! Je vois Dieu ! Oh ! Ah, je fais demi-tour et je reviens sur Terre. C'est magnifique ! Alors, on imagine, à l'atterrissage, les caméras de tous les pays sont là. Les présidents, les journalistes, la capsule se pose, les techniciens ouvrent le panneau, on voit l'astronaute qui s'avance, il sort de la capsule. Alors, il a vu Dieu, et tout le monde veut savoir. Alors, Dieu, racontez-nous, Dieu, c'est comment ? Dites-nous, décrivez. Alors, le cosmonaute se redresse, regarde bien toute la population mondiale et dit « Dieu, elle est noire !»« Dieu, elle est noire !» C'est une belle histoire, magnifiquement anticonformiste, qui fait plaisir à tous les religieux anti-orthodoxes qui luttent de nos jours post-MeToo contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations. Alors, pourquoi ? Alors, vous imaginez Michelle Obama comme elle a dû jubiler en racontant cette histoire. Mais pourquoi les enfants qui apprennent à prier récitent-ils, alors quelle que soit la religion, « Il est grand, notre Père, le Seigneur », comme si c'était un papa et pourquoi pas barbu, qui avait les clés du paradis et puis aussi le secret de la cachette des MMS qui fondent dans la bouche, pas dans la main. Alors, les déesses, les femmes dieux, sont souvent des symboles de fertilité immanentes au monde. Et les dieux masculins, eux, sont transcendants. Toutes les notions qui sont en train d'être bousculées, puisque l'on peut être monsieur ou madame ou sans genre hein, en 2023. Alors, si les dieux ne sont ni hommes ni femmes, au-dessus des humains, et donc un Saint-Esprit, est-ce qu'un esprit peut-il être barbu ? Alors, notre émission, vous l'avez bien connue, relevant plus de la boutique d'un coiffeur que de celle d'un théologien, examinons avec détachement, dérision et avec un rasoir ce qui pourrait être considéré comme une fake news tant qu'elle n'est pas prouvée. Vous savez, tous les journaux ont leur cellule de check news pour vérifier si une information est réelle ou non, si la rumeur a des fondements vérifiables ou si c'est juste une manipulation pour conforter des croyances et non des connaissances. Oui, hein. Arrêtons de croire, connaissons, sachons. Alors, la barbe, on y croit, on vérifie si c'est possible ou est-ce qu'on s'en fout ? Cet épisode, je le répète, est en plus une turpitude prenant au sérieux des choses rigolotes qu'un cours de doctorat en histoire des religions. Intriguer, c'est éveiller la conscience des auditeurs, comme la démocratie éveille la conscience des citoyens. Alors, l'écrivain Paul Léoto tenait un journal littéraire pendant 60 ans, jusqu'à sa mort en 1956. Il écrivait, il était un peu comme ça, starbé, derrière deux bougies, des réflexions culturelles et des ragots. Et l'on peut relever une phrase comme si elle était d'une immense importance pour la vie littéraire. André Gide s'est rasé. Ah, tout le monde était barbu, il ne l'est plus. Nous passons du 19e au 20e siècle, où tous les écrivains, ces dieux de la vie culturelle, seront glabres. Manet avait une barbe d'Apollon, Picasso ne laissera voir pas un poil. Il faudra attendre la venue des hippies pour que la barbe, look Jésus de Californie, signifie à nouveau une volonté d'être perçu comme des artistes différents. Et les hippies, sans dieu ni maître, sont des jeunes gens alors que la barbe était plutôt considérée comme l'apanage de l'âge, de la sagesse des vieux, de la sérénité avant la sénilité. Victor Hugo était-il barbu pour donner une image de son art d'être grand-père, rassurante, ou simplement parce que, passé un certain âge, ben on a la flemme de se raser chaque matin. Alors la barbe, miroir de la paresse, mais si Dieu barbu était paresseux, cela expliquerait effectivement pourquoi il a laissé faire sans intervenir ce qui demande, c'est vrai, des efforts. Il a laissé faire tant de malheurs dans le monde, tant de crimes, tant de massacres, tant de racisme, des injustices, l'antisémitisme, bref. S'il avait été un non-barbu dynamique, il n'aurait pas laissé faire un bien rasé, avec quand même une petite moustache noire, c'est vrai, il n'aurait pas laissé faire que celui-là a fait tous les malheurs du XXe siècle. Bon, c'est vrai qu'Adolphe, on ne l'imagine pas barbu. Bon, voilà. Bon, pourtant, la barbe est un symbole d'autorité. Pour les jeunes gens, elle exprime la virilité. Et pour les hommes mariés, que le devoir est fait. Et pour les patrons, c'est une forme de pouvoir, surtout dans la magistrature. Alors, dans l'exercice des religions, l'exemple ne tient plus, puisque le rabbin est barbu, le curé est glabre, ce n'est peut-être qu'une question de tradition. Bon, il y a eu des papes barbus, et vous savez, les missionnaires colonialistes, on les appelait les pères blancs, ils étaient barbus. Les premières représentations du Christ, comme au 5e siècle, la mosaïque de Ravenne, avec un Christ sans barbe, Et puis, à partir du Moyen-Âge, le Christ, il est devenu barbu. Des poils blonds ou roux que l'on voit sur les tableaux à partir du XVe siècle. Alors, il faut aussi raconter à la décharge de Dieu que pour se raser, il faut un rasoir. Et que le rasoir, le couteau, comme dans le film de Chaplin, Le Dictateur, ou les lames, ou les blocs de mini-lames, c'est une invention vraiment récente. Au XVIIIe, XIXe siècle et au XXe siècle, on avait ce couteau pour se raser tout seul, mais Louis XVI fut le premier roi à vraiment se raser. Le roi Soleil, Dieu sur Terre, Louis XIV, ne se rasait que tous les 15 jours. Le concile d'Aix-la-Chapelle, en 816, avait recommandé aux moines de se raser 24 fois par an, donc tous les 15 jours, sauf pour les ermites qui vivaient seuls et donc qui pouvaient porter une longue barbe. En fait, c'est un barbier, un coiffeur, qui vous faisait la barbe avec des sortes de ciseaux. Et tous les hommes avaient ce petit air négligé, très italien, paraît-il de nos jours, des barbes qui ont quelques jours. Connaissez-vous, chers auditeurs, Sainte Vilgeforte ? C'est une sainte, mais qui est barbue. Elle est parfois représentée crucifiée avec une robe et de jolis petits chaussons, et une barbe et une moustache, comme le Christ. Alors, ce n'est pas vraiment une sainte travestie, même si elle est connue et vénérée aujourd'hui par la communauté, comme on dit, pour les personnes qui sont LGBTQIA+. Sa fête, c'est le 20 juillet. Et en fait, c'est une jeune fille très pieuse qui est prise dans les tourments d'une guerre. Des soldats ivres s'apprêtent à la violer et la jeune fille implore Dieu. Elle veut sa protection divine. Et Dieu, qui est ému et qui a en plus un petit tour dans son sac et qui est un farceur. Et Dieu lui couvre immédiatement le visage d'une épaisse barbe et la jeune fille est ainsi sauvée, les soldats ennemis étant quelque peu décontenancés. Et donc, Vilgeforte, ça veut dire vierge forte. Alors, je ne sais pas s'il y a au paradis des vierges barbues qui attendent ceux qui se font sauter avec des bombes, mais ce serait peut-être un moyen de les dissuader de faire des attentats. Alors j'imagine une photo des 40 vierges barbues assises sur un nuage en train d'attendre un martyr. Bon, je l'ai dit, Dieu est un farceur et à défaut d'être glabre. Il y a aussi le phénomène, un peu comme une maladie, du hirsutisme. Alors, ce n'est pas les enfants qui refusent de se faire coiffer, tu es hirsute pour aller à l'école. Non, non. C'est un dérèglement hormonal qui fait pousser les poils, parfois partout sur le corps. Et ce sont les femmes à barbe que l'on montrait comme des phénomènes amusants dans les foires. Donc, s'il est prouvé que Dieu est barbu, cela n'empêche pas la possibilité que Dieu soit une femme. Annie Jones est une artiste très connue du cirque Barnum, le cirque américain qui a fait des tournées triomphales en Europe vers 1895. Et on exhibait cette femme à barbe comme un divertissement. Elle était l'artiste la mieux payée du cirque, $500 par semaine. Déjà tout bébé, on l'avait exhibée avec ses poils sur tout le corps et à 5 ans, elle avait une belle petite moustache qui faisait le plaisir des photographes qui revendaient des cartes postales de cette freak qui veut dire monstre ou bête curieuse. Et Annie Jones s'est battue contre cet adjectif qu'elle considérait comme dégradant à la dignité humaine. Elle est morte en 1902 de la tuberculose. Et on pense au film de Todd Browning, Freaks, La monstrueuse parade, un film culte, un chef-d'œuvre classique, avec des vrais acteurs ayant des malformations physiques. Et c'est une histoire d'amour, d'une belle tristesse, mais c'est un film vraiment formidable à voir pour se débarrasser des idées reçues et penser que l'on peut être différent et avoir la vie comme tout le monde, c'est-à-dire super compliquée. On peut aussi penser à Conchita Wurst, cette chanteuse drag queen qui a gagné, avec sa belle barbe noire et une voix magnifique, le concours Eurovision de la chanson en 2014 pour la gloire de l'Autriche. Et le 8 octobre 2014, Conchita Wurst, ça veut dire saucisse, hein, était venue au Parlement européen pour chanter devant les députés. C'était organisé comme une invitation à la tolérance. J'y ai assisté. Et je dois dire qu'au bout de 10 secondes, j'avais juste l'impression d'assister à un concert comme un autre, avec une voix d'opéra et beaucoup d'humour. Donc, vive les barbus, UES. La barbe est un moyen de se distinguer individuellement et d'être anticonformiste, car la barbe peut avoir de nombreuses formes. Ce qui, aujourd'hui, ferait ricaner, et on appellerait ça des dérives, Darwin, qui portait une grande barbe, a affirmé la supériorité des hommes blancs sur les autres, car seuls les hommes blancs pouvaient avoir une barbe très fournie, une barbe comme un dieu. Parfois, la barbe est une façon de s'affirmer, pas seulement religieuse, mais politique. Les jeunes musulmans, par exemple, avec un télescopage de perception entre la religion et la politique. Chez les hommes politiques, le seul grand barbu qui me vienne à l'esprit, c'est Fidel Castro et Che Guevara. Aujourd'hui, en France, dans les cercles libres, la barbe est parfois considérée comme un élément de contestation, alors que dans les sociétés asservies, la barbe était un signe de soumission. Et ça, c'est le cas encore, hein, pour certains fidèles, ils portent la barbe parce que Dieu leur dit de porter la barbe, blablabla, voilà. Alors, au XVIe siècle, il était interdit de porter la barbe parce que la police estimait que l'on pouvait se cacher sous une barbe et réussir à ne pas être identifié. Et surtout, la barbe était réservée à ceux qui servaient le roi. Les barbes de 3 jours ne signifient aucune contestation politique de nos jours. Et quand on évoque les signes religieux, ostensibles ou non, la barbe n'est plus considérée comme le voile ou les petites croix au marché de Noël de Strasbourg, ou la kippa ou la soutane. Non, les catholiques et les protestants ne se distinguent plus, comme pendant la Réforme, par la présence ou non d'une barbe. Et chez le pape, le dernier barbu, c'était Jules II, en 1503, et au dernier conclave, là c'était il y a 3-4 ans, hein, il n'y a eu qu'un seul barbu, l'archevêque de Boston. Alors, on va revenir à la question de savoir si Dieu est barbu en rappelant le deuxième commandement de Moïse, interdisant d'être représenté par une image ou une statue. Pour les croyants, un dieu invisible, c'est pas évident pour se reconnaître, surtout si la religion est clandestine. Alors ils avaient un code, non pas la barbe, mais la stylisation d'un poisson, l'anagramme en grec de Jésus-Christ, fils de Dieu Sauveur, ictus. Autre histoire, celle du graveur Claude Mélan, qui en 1649 a fait le visage du Christ barbu d'un seul trait. Il a commencé par la pointe du nez et il tourne pour réussir un portrait qui est vraiment un exploit technique extrêmement étonnant. Une unique ligne pour représenter, bien sûr, l'unique, le Dieu unique. Claude Mélan. Cherchez sur Internet, vous allez voir le dessin de cette gravure. C'est absolument formidable. Dieu d'un seul trait, d'une seule ligne. C'est beau comme la disparition de Georges Perec, vous savez, le roman sans la voyelle E. L'apologie de la contrainte est la contrainte source de sens. La contrainte produit du sens. Cette contrainte est un plaisir littéraire, celui du grand mouvement Oulipo, ou alors la contrainte de la représentation de Dieu pour les croyants, avec ou sans barbe, est certainement aussi source de ravissement. Saint Augustin, alors je cite Saint Augustin parce que Gérard Depardieu, c'est étonnant, mais il a écrit un livre avec un théologien sur Saint Augustin et qui est passionnant. Gérard Depardieu qui fait tellement de conneries et tout, ben voilà. Alors, Saint-Augustin s'était élevé contre l'anthropomorphisme, il ne fallait pas représenter Dieu. Et donc, jusqu'au XIIe siècle, on a représenté Dieu que d'une manière symbolique, une main ou un bras qui sortait des nuages. Alors, il nous reste le diable aussi. Mais comment représenter celui qui n'existe pas, seulement qu'en le faisant ressembler à notre... à quoi ? À notre invitation ? Bon, représenter le diable, une imitation ? Donc, restons sur un dieu barbu, les poils étant la force qui sied à ce pouvoir de régner sur les êtres humains sur Terre. Le poil, symbole de virilité et surtout de force, de courage. Les poilus de la Première Guerre mondiale étaient courageux, comme les soldats de Napoléon, parce qu'avoir du poil, cela voulait dire avoir du courage. Alors, ça n'avait rien à voir avec les barbus. De toute façon, il ne fallait pas qu'ils aient de barbe à partir de 1916, parce qu'il y avait les gaz et il fallait porter le masque à gaz, et avec une barbe, c'était plus compliqué. Donc, Dieu est... comme les poilus, ou les poilus comme Dieu, ils sont courageux. Et ça, on l'avait deviné. Au lycée, en terminale à Haguenau, je m'étais laissé pousser la barbe, qui était rousse, alors barbe rousse à Haguenau, quelques mois, pour une petite mais une belle longueur, qui jurait un peu avec mes cheveux longs, qui étaient blonds et qui étaient bien plus bas sur les épaules. S'il m'était absolument pas possible d'envisager de couper mes cheveux longs, ma barbe m'enquiquinait. Alors, je me suis amusé à en raser qu'une seule moitié, vous voyez, sous le nez, hein, descendre et tout, juste un côté. Et alors, en classe de philo, pendant que la prof, Madame Zer, peut-être que des auditeurs l'ont connue, la prof de philo, Madame Zer à Haguenau, elle nous faisait réfléchir, texte de Kant à l'appui, sur l'existence de Dieu. Je posais ma main, coude sur la table, sur ma moitié rasée. Donc, j'étais barbu. Et puis, j'ai changé de main, couvrant ma moitié barbue que l'on venait de voir. Et d'un coup, j'étais rasé. Et l'habitude, c'est toujours quelque chose d'imprévisible. Et Madame Zer ne peut plus s'empêcher de s'exclamer « Tiens, Perrin s'est rasé !» Et je levais la main et laissais apparaître ma mi-pilosité que je considérais comme une blague. Alors, mon envie de me distinguer fut servie. Je restais donc mi-rasé et mi-dieu, donc mi-barbu, pendant une semaine, puis j'ai tout rasé. Voilà. Et un demi-siècle plus tard, par la force du confinement, et ce fut la première fois depuis le lycée, j'ai laissé pousser pendant une dizaine de jours, c'était une dérisoire tentative inconsciente de conjurer la peur du Covid en tentant de me rapprocher de l'image de Dieu barbu. Enfin bon, pendant le confinement, j'ai laissé un peu pousser ma barbe, voilà, et je me suis rapproché des choses de l'esprit, de la miséricorde. J'ai lu beaucoup de livres et c'était, je ne veux pas dire que le confinement c'était passionnant, mais pour réfléchir... à qui l'on est et Dieu dans tout ça, comme disait Chancel, voilà, ou comme on prétend qu'il l'a dit, voilà. Heureusement, un salut sans la nécessité de la foi, sous la forme d'un vaccin, sauva nos corps confinés et nos âmes inquiètes. Et je me suis d'une voix rasé. Alors, vous l'avez bien compris, qu'il soit ou non barbu, il n'y a rien d'irrévérencieux à imaginer le bon Dieu. C'était l'épisode numéro 33, l'âge du Christ, de « Vous l'avez bien connu, Dieu est-il barbu ?» Vous l'avez bien connu, une émission tous les mardis à 11h30 et le dimanche à midi, à la technique Thomas Marinelli. Et mon nom, sans poil et sans reproche, est Ambroise Perrin.